Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kairo.
Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous prendrons des nouvelles d'Antoine Rosner, qui de son propre aveu a vécu un très bel été. Nous aurons également avec nous son coach Benoît Ducoulombier et reviendrons sur le saccage perpétré au golf de Saint-Cloud la semaine dernière. Et avec moi pour animer cette émission, Benjamin Cadieu de Journal du Golf. Bonjour Benjamin.
Salut Arnaud.
Allez Benjamin, tout de suite, place à l'actualité. On retrouve Antoine Rosner qui s'est illustré dimanche en Écosse en terminant quatrième de ce tournoi. Bonjour Antoine.
Bonjour, bonjour à tous.
Antoine, je viens de le dire, quatrième à égalité avec Rory McIlroy. Vous a manqué quoi pour gagner dimanche?
Oh, on peut toujours trouver des petits coups par-ci par-là sur quatre jours. Donc je pense que c'est peut-être un petit peu de... Bon, peut-être deux, trois petites erreurs qui m'ont coûté des petits bogeys. Maintenant, le jeu a été quand même hyper solide pendant quatre jours. Donc, voilà, comme je disais, c'est une des premières semaines de l'année où j'ai pas de regrets sur cette semaine. Donc, voilà, j'estime avoir fait une très bonne semaine vraiment complète.
On va revenir sur cette performance, mais d'abord, ce qui a marqué cette semaine, on a vu les images, tout le monde en a parlé, c'est ce vendredi. Vous jouiez à Carnoustie, c'était des conditions apocalyptiques, en tout cas, c'était très très compliqué. Racontez-nous ce vendredi à Carnoustie, Antoine.
Ouais, bah, c'était quelque chose vraiment que j'avais jamais vécu, je pense. Tous les joueurs étaient unanimes pour dire que c'était une des journées de golf les plus dures de nos carrières. C'est la première fois de ma vie que j'avais de l'eau dans mes chaussures. Donc, dès que je posais le pied par terre, ça faisait des flaques. C'était assez particulier. C'était une bataille constante pendant 6 heures parce que voilà, les parties là-bas durent très longtemps. Donc, c'était vraiment très dur. Je crois qu'il fallait rester hyper calme, arriver à... à sauver un maximum de parts. En fait, avec mon caddie, au départ de chaque trou, on se disait, voilà, quel est le moyen le plus simple de ramener un par sur ce trou. C'était même pas essayer de forcément d'aller chercher les birdies, c'était essayer de ramener des scores. Donc voilà, c'était une bataille permanente contre le parcours, mais surtout contre soi-même, contre les éléments, essayer de rester au sec, de garder les mains un petit peu sèches, le gant un petit peu sec, parce qu'on était tellement trempés qu'on en arrivait à un stade où je pouvais même plus mettre ma main dans ma poche, parce que sinon mon gant il ressortait trempé, quoi. Donc non, c'était vraiment apocalyptique.
Benjamin.
Antoine, ça vaut quoi 74 à Carnoustie, qui est un des parcours les plus durs au monde? C'est... Parce que de loin, on pourrait se dire, ah bah, il a joué 74, mais en fait, c'est une carte prodigieuse, 74, dans ces conditions-là. Ouais, ça vaut quoi?
Je me demande si ce n'était pas mon meilleur tour de la semaine. C'était quasiment équivalent au moins 9 de la veille à Saint-Andrews. Hein. C'était vraiment une grosse partie. C'était le troisième score du jour à Carnoustie. Je crois que la moyenne de score était de 77 ce jour-là, 78. Donc, c'était vraiment monstrueux. Après, je m'en suis bien tiré aussi. Hein. Je ne vais pas me cacher. Il y avait un peu de réussite là-dedans, parce que quand on a les mains trempées, voilà, il y avait quelques mises en jeu. Je n'avais aucune idée d'où la balle allait partir et je m'en suis à chaque fois bien tiré. Donc, je m'en suis très bien tiré. J'ai rentré 4 fois 2 mètres, 2 mètres 50 pour finir cette journée, pour sauver des parts. Donc, j'estime avoir ramené le meilleur score possible que j'aurais pu faire ce jour-là. Quoi.
Dans les histoires de chiffres, il y a Thomas Peters qui a joué 64, 83, 65. Et il y a surtout Alexander Knape, numéro 1 du Challenge Tour. Hein. 3 top 10 sur le Challenge Tour, dont une victoire sur les 4 derniers tournois. Il a fait 52 sur le retour à Saint-Andrews. Il est parti du 14. Il a enchaîné double, quintuple, quadruple pour commencer sa journée. J'imagine que des histoires comme ça, ça a dû fuser entre vous, joueurs, le vendredi soir ou le samedi.
Il y en a eu plein. On essayait tous un peu de savoir... quel était le parcours qui valait mieux le jouer et qui valait mieux jouer dans ces conditions-là. Et en fait, moi, mon point de vue, c'était que on s'en est pas mal tiré à jouer Carnoustie parce que l'écart entre une journée où il fait un temps correct et la journée de tempête qu'on a eue était peut-être moins important à Carnoustie par rapport aux deux autres où Saint-Andrew se faisait exploser la veille et en fait, il s'est défendu énorme le lendemain. Donc moi, j'estime qu'on s'en est pas si mal tiré. Mais ouais, le retour de Saint-Andrew dans la pluie et le vent contre, honnêtement, je pense que personne n'avait envie de s'y filer ce jour-là. Ouais.
C'était jouable, Antoine. On sait qu'il y a des joueurs comme Thomas Peters qu'on tweetait par exemple, mais tour européen, vous êtes devenu fou ou quoi? Enfin, est-ce qu'il fallait jouer ce jour-là?
C'était très limite, honnêtement, c'était très limite. Maintenant, d'un point de vue des règles de golf, la balle bougeait pas, il n'y avait pas d'eau sur les greens, donc en fait, il y avait un peu aucune raison d'arrêter le jeu. Mais c'était très très limite en termes de conditions, de ne serait-ce que de prendre soin de nous, parce qu'on à tout moment tous les joueurs étaient malades le lendemain, quoi. C'était vraiment assez dingue. Ouais.
Je l'ai pas dit, Alexander Knappel, il a fait 88 quand même, hein, des scores qu'on connaît plutôt chez les amateurs. Et justement, ce tournoi il se déroule avec des amateurs. C'était dur pour les pros, on n'ose pas imaginer pour les amateurs, Antoine.
Ouais, bah c'était compliqué pour tout le monde. Alors moi, je jouais avec mon amateur Norbert d'Entresemble, qui s'en est plutôt bien tiré ce jour-là. Il a ramené 6 points en équipe, donc franchement, il s'est bien débrouillé. Alors ouais, forcément, pour les amateurs, c'était très compliqué aussi, mais vous savez quoi, après la partie, donc on était tous au clubhouse un peu en même temps, parce qu'on jouait en shotgun, et franchement, il n'y a pas un amateur qui n'avait pas le sourire, quoi. Tout le monde... au final, une fois que c'était fini, il était content et je pense qu'au final, tout le monde se souviendra de cette journée pendant bien bien longtemps.
Antoine, vous l'avez dit à l'issue de ce tournoi, vous venez de vivre 2 mois de surprenant, de dingue, en tout cas très satisfaisant d'un point de vue golfique, avec une 50e place et sinon que des top 20 et 2 quatrièmes places. J'imagine que quand on joue bien au golf comme ça, ça doit faire très très plaisir.
Ouais, ça fait plaisir, ça fait du bien pour la tête. Franchement, je sentais que le jeu il était pas loin. Ça s'était un petit peu dégradé en début d'année, mais c'était pas loin. Et voilà, ça a cliqué à mon retour de vacances cet été. Et j'ai vraiment bien joué. Et honnêtement, quand je faisais des top 20, à chaque fois j'avais des regrets parce que je sentais que j'en avais énormément sous le pied, que ça aurait pu être des top 5 et j'aurais produit exactement le même golf. Et donc voilà, j'avais presque un petit peu de frustration par moment, mais là voilà, j'étais content d'arriver à produire 4 tours solides d'affilée et voilà, de pas avoir de regrets à la fin du tournoi. J'étais vraiment content et honnêtement, c'était un beau moyen de concrétiser ces très bonnes semaines de golf d'affilée. Donc j'étais vraiment content de ce point de vue-là.
Benjamin.
Quand on regarde vos scores, Antoine, donc depuis cet été, il y a quasiment que du rouge. Il y a un 74 à le dernier tour de l'Open de France sur un parcours compliqué. Le 74 à Carnoustie et le reste, c'est soit dans le par, soit largement dans le rouge quand on regarde. Vous avez déjà été dans une pareille zone en carrière de qualité?
Ouais, je pense que je l'ai déjà été. Maintenant, je pense que c'est mon fond de jeu qui veut ça aussi. Mon point fort, c'est le grand jeu. Et voilà, quand je suis réglé, quand je suis calé, l'avantage d'avoir un bon grand jeu, c'est que je me mets très peu en difficulté. Et du coup, je fais très peu d'erreurs, je loupe très peu de green. Et voilà, du coup, ça fait que j'enchaîne les très bonnes parties sous le par. Donc voilà, j'étais très, très satisfait de ce point de vue-là. En plus, j'ai changé de caddie cet été. Je bosse avec un Français, Patchy. Et franchement, on fait du super boulot, on fait très peu d'erreurs. Et je pense qu'il est aussi pour beaucoup dans ma bonne forme en ce moment. Ouais.
Vous avez dit que ça a cliqué. C'est quand même un terme qu'on aime bien entendre. Et alors, expliquez-nous, c'était quoi ce clic ?
Franchement, ça se joue à pas grand-chose. Alors, j'ai beaucoup bossé au début de l'été avec Benoît, et c'est vrai qu'on a trouvé 2-3 sensations dans le swing qui me plaisaient énormément. Donc, j'ai essayé de m'accrocher à ces sensations que j'aimais bien. Mon fade est revenu, et moi, quand mon fade revient, je swing beaucoup plus en confiance. Et voilà, j'ai commencé à prendre vraiment confiance au fur et à mesure des semaines. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai fait des bons résultats, parce que comme je le disais, quand je tape bien la balle, je me mets très peu en difficulté, et ça, c'est quand même pas mal.
C'est quoi les objectifs maintenant sur cette fin de saison qui approche et pour le début de la prochaine, Antoine?
En fait, j'ai pas eu trop le temps encore de me poser, d'analyser tout ça, parce que c'est vrai que cet été, je me disais que si j'arrivais à aller chercher une qualif à Dubaï, ça voudrait dire que j'aurais fait une très bonne deuxième moitié de saison. Maintenant, j'y suis déjà. J'ai envie d'aller chercher une qualif au British, tout simplement. Je sais plus exactement les critères, je sais plus si c'est top 20 ou top 25 pour se qualifier pour le British l'année prochaine, mais voilà, je suis au courant que si j'arrive à bien finir l'année, je peux aller chercher des échéances intéressantes. Donc tout simplement essayer de continuer comme ça. Il y a le tournoi Sun City qui va être génial, avec des gros points à prendre, et puis cette belle finale à Dubaï, pareil. Donc essayer de tout simplement continuer comme ça, et voilà, je pense qu'il peut y avoir que des belles choses qui peuvent se passer.
Merci Antoine Rosner d'avoir été avec nous. On va avoir Benoît Ducoulombier, là, votre coach, juste après vous. Vous avez un message à lui faire passer?
Non, rien de particulier. Vous pouvez lui passer le bonjour, tout simplement.
D'accord. Merci Antoine d'avoir été avec nous, et à très bientôt pour d'autres bonnes performances.
À bientôt, au revoir.
Au revoir. C'est toujours, toujours pareil, hein, ce jeu de golf, on ne sait jamais pourquoi il part, comment il revient, et les sensations et les bons coups. Enfin, le golf est un jeu de confiance, comme l'a dit Bob Rotella.
On aimerait vivre une zone comme vivent ces joueurs-là, avec que des cartes dans le rouge. Je vous invite à voir sa page de statistiques. Elle est toute rouge, quoi. Il y a que des scores en dessous de 70, et on aimerait bien vivre ça une nuit, et puis se réveiller, et puis refaire nos 88, mais juste un
grand... Soyez pas modeste, Benjamin, vous avez joué quelques cartes.
Un grand bravo à lui pour scorer 74 à Carnoustie dans des conditions pareilles. C'est monumental, même quand il fait beau, on se demande comment les joueurs font. Ils arrivent à broyer un peu le parcours, mais là, pluie et vent dans le sens où il était, c'était vraiment très compliqué.
Allez, on va en parler avec le coach de Antoine Rosner, Benoît Ducoulombier, qui est avec nous. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Alors Benoît, on vient d'avoir Antoine Rosner avec nous, qui vient de nous commenter cette quatrième place au Dunhill. J'imagine que vous aussi, ça vous fait plaisir de le voir à égalité avec Rory McIlroy.
Oui, ce qui me fait plaisir surtout, c'est qu'il progresse, il avance, et voilà, ça devient un bon et grand golfeur. Voilà.
Il nous a dit en début d'année qu'il avait eu quand même une petite période de moins bien. C'était dû à quoi, d'après vous?
Parce que c'était pas clair en sa tête ce qu'il devait faire, qu'il aime bien taper une petite pointe de fade et il n'arrivait plus à la faire. Voilà. Et donc, après, quand on n'arrive pas à faire cette petite pointe de fade, ça peut se transformer rapidement en gauche-gauche ou en push. Donc, c'est ce qui se passait. Il n'avait pas de sens de jeu. Voilà. Et donc depuis le mois de juin, en fait, on a mis quelque chose en place. Je sais pas si vous en a parlé.
Et il nous a dit qu'il y avait eu un clic, mais il nous a pas trop expliqué, nous, ce que vous avez mis en place.
J'étais en vacances au Touquet, on a passé une journée ensemble, et là il y a eu un déclic. Voilà. Hein?
Mais expliquez-nous, le déclic, c'est le rêve de tous les golfeurs, et surtout on en entend parler chez les pros, et nous on y viendra jamais. Donc expliquez-nous le clic.
Non, mais c'est trop compliqué. C'est pas.
Allez-y. Benoît, on est là pour ça.
Ça dépend tellement des gens, c'est différent pour tout le monde.
Ouais, mais nous, expliquez-nous ce que vous avez fait.
Si je veux globaliser le truc, je lui ai demandé de contrôler beaucoup plus sa phase de club à l'impact avec l'épaule droite, en fait. Voilà. Et moins par l'effacement du côté gauche. C'est un peu compliqué, hein.
Et Benoît, ça, comment ça vous vient pendant la nuit? Ça vous vient tout d'un coup? Comment vous, quel est votre cheminement à vous?
Non, c'est... par exemple, il était embêté un peu par une tête qui se couchait un peu en début de descente. Mais pour moi, c'était une conséquence un peu. Donc... c'est toujours pareil, hein. Il faut toujours essayer d'aller à la source du problème. C'est pour ça que moi je suis très à cheval. L'autre jour, j'ai une joueuse qui est venue me voir
elle arrive devant moi, elle est perdue et tout. Bah, d'abord, voilà, si elle, d'abord mis un grip, etc. Et puis après, d'abord mis un grip, une posture. Je mets d'abord un grip, une posture. Puis après, je vais voir ce qui se passe. Bon, Antoine, tout ce qui est grip, posture, c'est plutôt très propre depuis quelques années même. Et donc là, c'était juste un peu de refus à l'impact. Et je pense que là, j'ai trouvé les bons mots. Et puis Antoine, c'est quelqu'un, si je lui demande quelque chose, il discute pas. Il me fait confiance, il fait. Voilà, donc ça, c'est très, très bien. Parce que je me dis pas, il va batailler, etc., etc. Maintenant, ça m'arrive de lui dire quelque chose, dire, bon, écoute, laisse tomber, on est allé trop loin là, pas assez par là, etc. Mais c'est compliqué, je ne sais pas vous dire pourquoi... Il avait cette tête qui se bloquait un peu en début de descente. Donc, lui, il essayait de le prendre en se disant « Il ne faut pas que je penche ma tête en début de descente. » Mais pour moi, c'était trop compliqué. C'est pendant. Et toutes ces pensées pendant, elles bloquent beaucoup de choses, en fait. Donc, je lui ai mis une pensée, en fait, à la fin, sur le finish, en fait. Le finish, qu'il faut comprendre, c'est que le finish va conditionner la position du club à l'impact, en fait. Voilà, c'est pas je dois être comme ça à l'impact, c'est je vais le conditionner en fait. C'est-à-dire que si je mets le joueur dans telle position au finish ou telle ou une autre position au finish, son impact va être différent en fait. Vous voyez ? Et ça, c'est quelque chose qui est après. Et pendant, moi, j'aime pas toucher pendant en fait. Donc, bien sûr, qu'on voyait que le joueur il se bloquait la tête à l'impact et tout ça, mais ça, c'est du pendant. Et le pendant, c'est trop dur à gérer, en fait. Voilà.
Au niveau du petit jeu et du putting, il en est où ? Et est-ce que vous avez un peu moins travaillé à ce niveau-là parce que vous avez plus travaillé le grand jeu ? Comment, il en est où ?
Alors, le putting, moi, si vous voulez, à un moment donné, il travaillait avec Jean-Pierre Sixou. D'accord ? Et Jean-Pierre, il est très avec des machines, des etc., ce qui est formidable. Hein. Il fait un super boulot, Jean-Pierre. Mais bon, moi, je le regarde derrière, je le vois faire un bord droit, un bord gauche. Je le vois, si le putter, il bouge bien ou pas. Et donc, à un moment donné, effectivement, il brossait un peu la balle. Et bon, maintenant, son putter, il bouge parfait. Mais l'autre jour, c'était à Cran-sur-Cère, en fait. Il arrive devant moi et il me dit, voilà, je putte pas bien, le putter, il fait ci. Il arrive avec un degré trop comme ci, trop comme ça. Et je dis, mais d'abord, Antoine, première chose, la ligne de tes genoux à l'adresse, elle n'est pas bonne. D'accord ? Donc, avant de me parler que ton club, il fait ci, il fait ça, je veux que la ligne des genoux, elle soit bonne. C'est tout. Et donc, à partir de ce moment-là, le putter, il s'est mis à bouger parfait, en fait. Mais après, il fallait juste retrouver confiance et croire, et vraiment comprendre, et comprendre que le putter, il bougeait parfait, c'est tout. Mais après, bon, ben voilà, je pense que Denis, quand il a fait moins 9 le premier jour, il a rentré tous ses putts. J'ai demandé à Norbert avec qui jouer, il m'a dit oui, il a mis tous ses putts. Donc il faut être aussi patient en putting. On peut très bien avoir un super stroke bien putté et puis pas en rentrer une. Et puis le lendemain, on les rentre tous. Donc voilà, à partir du moment où le stroke est bon, après il faut se détendre, se relâcher et avoir un peu plus de nez. Et pour moi, il y a beaucoup de stratégies au putting en fait. Beaucoup plus qu'on imagine. La technique, elle est simple. Elle est très, très simple. Mais après, il y a beaucoup de stratégies. La stratégie, c'est la vitesse de balle, c'est la lecture des greens, sentir quand un putt, il ne faut pas y aller, il faut y aller. Et ça, ça lui manque encore un tout petit peu. Mais bon, voilà, maintenant, s'il est rassuré sur son stroke, il va pouvoir développer autre chose, en fait. Hein ?
Benoît, pour terminer, il avait été 63e mondial au plus haut, il a été 235e au plus bas là, il y a un mois et demi à peu près. Là, il repart vers le haut. Qu'est-ce qui lui reste pour intégrer ce top 50 mondial avec lequel il a flirté en début d'année dernière ?
Bon, il manque plus rien maintenant. Maintenant, ça va tomber. Hein. C'est pas, il n'y a pas de souci. Puis je crois qu'il s'entend très bien avec son caddie. Je ne sais pas si vous en avez parlé.
Oui, il vous a parlé de Pachi.
Pachi de la Star Academy.
Voilà. Et puis après, aussi, un petit peu à lui d'investir dans son entraînement. Moi, 6 fois dans le tournoi, ben, j'y vais. Hein. J'y suis allé pas mal de fois quand même. Hein. J'y vais moins longtemps. J'y vais 3-4 jours, mais j'y vais.
Benoît, ça, voir Antoine qui rejoue bien comme ça, ça vous donne envie de retourner sur les tournois? On sait que vous commenciez à avoir fait un petit peu le tour du tour là.
Oui, et puis des problèmes de santé aussi, qui apparemment la santé va mieux.
Oui, non, mais j'ai plus envie de faire comme avant, faire des longs courriers, enchaîner 25-30 tournois par an, ça, il n'y a pas question. Donc, par contre, faire... mais j'ai pas, Antoine, c'est pas quelqu'un qui a besoin de ça, en fait. Voilà. Alors, l'année prochaine, la question va se poser différemment, parce qu'il y a de fortes chances qu'on ait aussi Clément Sordet sur le tour. J'espère aussi en avoir encore un de plus. Et dans ces cas-là, mais je pense pas que ça soit une bonne chose d'être sur tous les tournois comme je le faisais avant. On les assiste un peu. Donc, c'est bien aussi qu'eux se responsabilisent, c'est tout. Voilà. Hein? Et puis, bon, moi, j'ai passé l'âge de passer mon temps dans les hôtels. C'est bon, hein? J'ai donné, on va dire. Hein?
Merci, merci Benoît. C'était passionnant comme d'habitude. On vous pose pas de questions sur vos autres joueurs, non? Rien à déclarer de particulier?
Ah ben, j'en ai quelques-uns qui commencent vraiment à bien jouer. Là. Clément Sordet est super. David Ravetto, depuis 2 mois, c'est parti en flèche. Adrien Saadier, c'est la première fois, je sais pas si vous avez vu, qui fait un très bon week-end au golf de Pont-Royal. Donc ça aussi, on a mis des choses en place. Victor, je sais que vous avez envie de parler de Victor.
Allez-y, si ça vous fait plaisir.
On vous a vu sur le petit green de l'Open de France avec lui.
C'est vous que ça fait plaisir. Moi, je ne l'ai pas vu depuis plusieurs années. Donc je ne peux pas vous dire. Hein. Je lui ai parlé 10 minutes à l'Open de France sur le petit green, c'est tout. Hein. Voilà.
Et son dos, il abandonne à cause de son dos? Il a mal au dos?
Je n'en sais rien du tout. Je n'ai aucune idée. Franchement, j'ai aucune idée.
Ok, allez, on vous embête pas plus longtemps, Benoît. Merci beaucoup, c'était passionnant.
Bon, avec plaisir.
Toujours un plaisir de vous avoir. Et puis,
il y a le terrain de boule derrière de la Boca.
D'accord.
De la Boca.
Super. On va se quitter là-dessus. Merci Benoît, et à très bientôt pour de nouvelles explications sur le golf.
Allez, au revoir.
Le druide, hein, le surnom de Benoît du Colombier, c'est pas pour
rien. Il le mérite bien. Il a du mal à lâcher ses recettes, mais quand il nous donne quelque chose, c'est patient. C'est quand on écoute ce coach, on a envie de prendre l'avion, de le rejoindre à Cannes et de payer une leçon avec lui. Je sais pas si ça vous fait ça, Arnaud, mais
c'est
mélange
c'est
de mots et de techniques à la fois.
Ouais,
de...
puis en plus, comme il dit, il aime pas intervenir dans le swing, et c'est vrai que c'est quand même la chose qu'on préfère chez un enseignant ou chez un pro, c'est quand il nous parle de choses à arrêter, parce qu'effectivement, pendant le swing,
mélange d'humain et de technique qui plaise tellement aux joueurs qui passent entre les mains de Benoît. Quoi. On voudrait l'avoir comme coach. Quoi.
Allez, pour terminer, on vous en a parlé. Malheureusement, le golf de Saint-Cloud a été saccagé la semaine dernière. Et pour revenir sur ce sujet malheureux, Benjamin, on a vu les images, hein, avec ces greens défoncés, retournés, les sangliers syndicalisés, comme ils s'appellent, avec des slogans quasiment tous plus bêtes les uns que les autres.
Ouais, surtout que le sanglier, Arnaud, est un animal très intelligent. Je ne suis pas sûr que leur nom soit très bien choisi à ces gens-là, quoi.
Allez, on va appeler Pierre Chevalier, le directeur de la communication de l'ADGF, l'Association des directeurs de golf français. Bonjour Pierre.
Bonjour Arnaud.
Alors Pierre, on vient de l'évoquer, hein, ces greens saccagés à Saint-Cloud, ce n'étaient pas les premiers de l'été malheureusement, mais c'était peut-être l'action la plus spectaculaire. J'imagine que ça fait beaucoup causer dans les rangs de l'ADGF et des directeurs de golf et dans toute la filière française.
Pierre. Clairement, on a passé un été assez compliqué de ce point de vue-là, avec une prise pour cible du golf, quels que soient les angles d'attaque, à la fois sur les utilisations de l'eau et l'utilisation des produits, mais particulièrement de l'eau sur cet été particulièrement sec. Et là, sur ce dernier épisode, effectivement, tu le rappelais, il y a eu beaucoup de cas de vandalisme cet été, plus ou moins revendiqués. Mais sur ce cas, sur ce dernier cas à Saint-Cloud, on passe un cap un peu dans la violence des propos et des revendications. Et là, on s'éloigne un petit peu du sujet purement environnemental, avec là une prise de position, je mets des gros guillemets, anti-riche et anti-bourgeois, avec un message de revendication très violent et assez choquant.
En plus, Pierre, il n'y a rien à faire. Un golf, il ne peut pas se protéger. C'est impossible de surveiller un golf 24 heures sur 24 et 365 jours par an. C'est une cible facile.
Non, c'est ça. Ce sont des grandes surfaces qui sont plus ou moins isolées. Là, pour reprendre l'exemple du golf de Saint-Cloud, c'est un golf qui est en ville et avec pourtant entouré d'habitations et de quelques clôtures. Mais effectivement, on ne peut pas clore un terrain de golf comme on ne peut pas clore un champ ou une forêt, tout simplement.
Benjamin.
Oui, est-ce que vous avez eu des revendications ou des appels, quelque chose, un semblant de dialogue avec ces gens, avec ces sangliers ou d'autres activistes, ou c'est simplement de la dégradation et de la violence végétale, j'allais dire?
C'est de la prise de position. C'est de la prise de position, alors on va dire politique et polémique, mais absolument aucune prise de contact, ni en amont ni en aval, de ces groupes-là, que ce soit d'ailleurs par exemple sur le golfe de Toulouse qui a été le premier concerné par ce type de vandalisme. Il n'y avait pas eu de revendication du groupe concerné. Les sangliers syndiqués pas plus sur le golfe de Saint-Cloud. On a l'impression que les revendications, ils les font par voie de presse interposée, et par les photos et par les messages qu'ils laissent sur place. Mais en tout cas, on a l'impression qu'il n'y a pas de dialogue possible avec ces groupes-là. On est dans la filière, on est estampillé et on est stigmatisé, et ça s'arrête là, sur la possibilité de s'en défendre.
Pourtant, Pierre, on le sait que les golfs ont conscience de ça depuis de nombreuses années. La fédération et les golfs partout ont mis en place des procédures, des process pour être de plus en plus écologiques, pour économiser l'eau, pour utiliser moins de produits phytosanitaires. C'est sûr qu'il faut faire mieux, mais ça fait déjà longtemps que la filière a compris l'enjeu. Et si elle n'est pas exemplaire, en tout cas, elle n'a rien à envier à tous les autres sports. Et on peut dire que les golfs sont, au moins en France, en tout cas... écologiques, ou en tout cas font tout pour tendre à le devenir.
C'est ça, on va dire qu'il y a deux axes là-dessus. Il y a un axe de pédagogie et un axe de communication. La pédagogie, il faut continuer à la faire. Et la communication, il faut être meilleur sur la manière de montrer que le golf est un sport, déjà un sport magnifique, et un sport qui est de plus en plus vertueux. Effectivement, la loi Labbé est passée par là il n'y a pas si longtemps. Nous allons être tenus en 2025 de la partie zéro phyto, et on est tous conscients et tous mobilisés sur une meilleure utilisation et une optimisation de l'utilisation de l'eau. Ressources chères et
La semaine prochaine, c'est le congrès de la DGF, je l'ai dit, l'association des directeurs de golf français, et notamment le congrès se terminera par une table ronde sur l'écologie avec Pascal Grisot, le président de la Fédération française de golf. On espère pouvoir diffuser preuve quand même que toute la filière est concernée et est consciente des problèmes et des enjeux actuels, évidemment, du climat et de la responsabilité des golfs. Pierre.
Exactement. On espère faire le maximum de, j'allais dire de prosélytisme, mais c'est pas exactement ce mot-là. En tout cas, prouver que d'une part, comme tu l'as rappelé, la filière est totalement consciente des enjeux d'aujourd'hui et de demain, et que l'on est tous en ordre de bataille justement pour, avec pédagogie, montrer notre bonne gestion des ressources naturelles qui nous sont confiées sur la gestion d'un parcours de golf.
Merci Pierre Chevalier d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le responsable de communication de la DGF et à très bientôt. Merci. Allez, Benjamin, avant de se quitter, il l'a dit, la cible, quand même, encore une fois, en France, le golf est catalogué sport de riches. C'est quasiment le seul pays au monde où c'est comme ça. On est vraiment dans une case. Ça fait 30 ans que ça dure, enfin, ou même beaucoup plus, mais ça ne bouge quasiment pas.
C'est un mélange de bêtises et de violence. Donc, c'est vraiment deux choses qui dérangent. On a joué quand même tout l'été. J'ai joué tout l'été au golf sur des fairways brûlés où il n'y avait quasiment plus d'herbe. Moi, ça ne me dérangeait absolument pas de taper la balle sur un fairway complètement cramé. Il y avait juste un petit semblant d'herbe sous la balle. On s'y fait très vite. Et voilà, donc on va sur beaucoup de golf où il y a on en parlait tout brièvement tout à l'heure, des bassins de rétention d'eau. À Chantilly-Vineuil, l'un des plus vieux parcours de France, on est en train de construire ces fameux bassins pour pouvoir recycler l'eau de meilleure façon. Donc le golf va dans le bon sens, mais c'est cette culture de l'amalgame et de la violence qu'on retrouve dans, chez beaucoup d'activistes, pas tous, mais chez beaucoup d'activistes écologiques et qui s'en prennent aussi au sport automobile, à la chasse, et pas toujours de la meilleure des façons. Parce qu'au final, ça part d'une bonne intention, c'est de préserver la planète. Et le golf a des progrès à faire, tu l'as très bien dit Arnaud, mais en s'y prenant comme ça, ça donne pas envie d'aller dans le sens de ces sangliers qui ont vraiment, une fois encore, mal choisi leur nom.
Allez, ce sera le mot de la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci Benjamin de m'avoir aidé à la préparer et à l'animer. Et bien sûr, merci à Hugo Ponce à la réalisation, aidé de Manon Cambrai. Allez, salut à tous. On se retrouve la semaine prochaine.